Thomas Mann, Les Buddenbrook, déclin d'une famille. Paru en 1901, Les Buddenbrook marque du point de vue générique le passage décisif pour Thomas Mann de la nouvelle au roman. Cette forme ample devint dès lors la caractéristique dominante de ce que l'on a coutume d'appeler la modernité classique allemande. Nous proposons ce chef-d'œuvre dans une nouvelle traduction intégrale. Cette année-là, les Buddenbrook ne firent aucun voyage, même pendant les vacances scolaires de Christiane et de Clara. Le consul déclara être trop pris par ses affaires et la question toujours pendante concernant Anthony fit qu'on demeura à la maison de la Mengstrasse. Une lettre à Herr Grünlich, extrêmement diplomatique, avait été écrite de la main du consul, mais l'affaire ne progressait pas à cause de l'obstination de Tony, qui s'exprimait sous les formes les plus puériles. « Jamais de la vie, maman !» disait-elle. « Je ne peux pas le supporter !» Elle accentuait avec emphase ce dernier mot, ou alors elle déclarait solennellement « Père !» D'habitude, elle disait « Papa !»« Je ne donnerai jamais mon consentement !» Les choses en seraient sans doute restées là longtemps si, 10 jours peut-être après la conversation au petit déjeuner, on était à la mi-juillet, l'événement suivant n'était advenu. C'était l'après-midi, un après-midi d'azur et de chaleur, la consule était sortie et alors que Tony était assise avec un roman près d'une fenêtre du salon des paysages, Anton lui apporta une carte de visite. Avant qu'elle ait eu le temps de lire le nom, un monsieur en large redingote et pantalon vert, petit pois, entra dans le salon. C'était bien entendu Herr Grünlich, avec sur son visage une expression de douce supplication. Effrayé, Tony bondit de sa chaise et eut un mouvement de fuite vers la salle à manger. Comment était-il possible de parler encore à un monsieur qui avait demandé sa main? Son cœur battait à tout rompre et elle avait blêmi. Tant qu'elle savait que Herr Grünlich était loin, les échanges sérieux avec ses parents et la soudaine importance de sa personne et de sa décision l'avaient vraiment amusée. Mais maintenant, il était revenu. Il se tenait devant elle. Qu'allait-il arriver? Elle se sentait à nouveau au bord des larmes. D'un pas rapide, les bras ouverts et la tête penchée, Herr Grünlich s'avançait vers elle dans l'attitude d'un homme qui veut dire « Me voici. Tue-moi, si tu veux. »
« Quel heureux hasard ! » s'écria-t-il. « Je vous retrouve, Anthony !»
Il l'appelait Anthony. Tony, debout près de sa chaise, son roman dans la main droite, fit saillir ses lèvres et dit, hochant la tête à chaque mot sur un ton profondément indigné, « Qu'est-ce qui vous prend ?» Malgré cela, elle était tout près de fondre en larmes. L'émotion de Herr Grünlich était trop grande pour qu'il entende cette question.
Je ne pouvais attendre plus longtemps. Ne devais-je pas revenir ici?
Demanda-t-il pressant. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre de votre cher père, une lettre qui m'a rempli d'espérance. Pouvais-je demeurer plus longtemps dans une demi-certitude, Fraulein Anthony? Je n'y tenais plus. Je me suis jeté dans une voiture. Je me suis précipité ici. J'ai pris une suite à l'hôtel de Hambourg et me voici, Anthony, pour recueillir de vos lèvres le mot ultime et décisif qui me rendra plus heureux que je ne saurais le dire. Tony était pétrifié. De stupéfaction, elle refoula ses larmes. C'est donc cela, l'effet de la prudente lettre paternelle qui avait reporté toute décision à une date indéterminée. Elle balbutia 3 ou 4 fois. Vous vous trompez. Herr Grünlich avait approché un fauteuil tout à côté de sa chaise, près de la fenêtre. Il la pria de se rasseoir, et tandis que penché en avant, il tenait dans la sienne la main d'Anthony, que la confusion paralysait, il poursuivit d'une voix émue, Fraulein Anthony. Depuis le premier instant, depuis cet après-midi, vous vous souvenez de cet après-midi? Dès que je vous vis pour la première fois au milieu des vôtres, apparition aussi séduisante qu'un rêve, dans mon cœur, votre nom s'est écrit en lettres ineffaçables. Il se corrigea et dit,
c'est gravé. Depuis ce jour, Fraulein, Anthony, c'est mon unique désir, mon désir ardent d'obtenir votre belle main pour la vie, et ce que la lettre de monsieur, votre cher père, ne faisait que me faire espérer, vous allez maintenant faire une heureuse certitude, n'est-ce pas? Je me permets de compter que vous partagerez mon sentiment, d'avoir la certitude que vous partagerez mon sentiment. En même temps, il prit son autre main dans la sienne et jeta un regard profond dans ses yeux dilatés par l'angoisse. Ce jour-là, il n'avait pas ses gants de fil, ses longues mains blanches étaient marbrées de grosses veines bleues. Tony fixait son visage rose à sa verrue sur le nez et ses yeux aussi bleus que ceux du noir. « Non, non » explosa-t-elle d'un coup, angoissée à l'extrême, et elle dit encore « Je ne vous donne pas mon consentement ». Elle s'efforçait de parler d'un ton ferme, mais déjà elle pleurait. « En quoi ai-je mérité ces doutes et ces hésitations ?» interrogea-t-il sur un ton grave et comme empli de reproches. « Vous êtes une jeune fille gâtée, entourée d'amour et d'attention, mais je vous jure, vraiment, parole d'homme, que je ferai tout pour vous, pour que, devenue mon épouse, vous ne manquiez de rien et que vous ayez à Hambourg une vie digne de vous. » Tony se leva d'un coup de sa chaise, dégagea ses mains et tandis que ses larmes jaillissaient, elle s'écria complètement désespérée « Non, j'ai vraiment dit non, je vous rejette, vous ne comprenez pas, Dieu du ciel !» Cependant, Herr Gründlich se leva aussi. Il recula d'un pas, il écarta les bras, lui présenta ses mains, paumes ouvertes, et dit avec la gravité d'un homme d'honneur, d'un homme de tête « Savez-vous, mademoiselle Buddenbrock, que je ne puis me laisser offenser de la sorte ?»« Mais je ne vous offense pas, Herr Gründlich, » dit Tony, car elle regrettait d'avoir été si rude. Mon Dieu, cela devait-il lui arriver à elle? Elle n'avait pas imaginé une telle demande en mariage. Elle avait cru qu'il fallait simplement dire « Votre demande m'honore, mais je ne puis l'accepter pour que tout soit réglé. »« Votre demande m'honore, » dit-elle aussi calmement que possible, « mais je ne puis l'accepter. » »« Bien, et je dois maintenant vous laisser. Pardonnez-moi, je n'ai pas le temps. » Mais Herr Gründlich lui barra le passage. « Vous me repoussez ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Oui ?» dit Tony, et prudemment elle ajouta. « Hélas !» Herr Gründlich prit une large inspiration, il recula de deux grands pas, inclina le buste et de son index, il désigna le tapis et s'écria d'une voix terrible « Anthony !» Ils se firent face ainsi pendant un instant, lui dans une attitude franchement irritée et autoritaire, Tony blême, en larmes, et tremblante, son mouchoir mouillé sur la bouche. Puis il se détourna, et les mains derrière le dos, il parcourut deux fois la pièce de long en large, comme s'il était chez lui. Puis il s'arrêta près de la fenêtre, et regarda tomber le crépuscule à travers les vitres. Tony se dirigea lentement et très prudemment vers la porte vitrée, mais à peine avait-elle atteint le milieu de la pièce que Herr Gründlich se trouvait à nouveau près d'elle. « Tony !» dit-il à voix basse en saisissant doucement sa main, et il s'affaissa. Il s'agenouilla lentement devant elle, ses deux favoris jaunes d'or touchant presque ses mains. « Tony, » dit-il à nouveau, « regardez-moi. Vous m'avez abattu. Avez-vous un cœur sensible ? Écoutez-moi. Vous voyez devant vous un homme anéanti, plongé au fond de l'abîme, qui mourra de chagrin si, dans sa hâte, il s'interrompit. Si vous rejetez son amour, me voici à vos genoux. Aurez-vous le cœur de me dire « Je vous déteste » ?»« Non, non !» dit soudain Tony sur un ton consolateur. Ses larmes avaient séché, l'attendrissement et la pitié s'éveillaient en elle. « Mon Dieu !» comme il devait l'aimer pour donner tant d'importance à cette chose qui lui était à elle complètement étrangère et indifférente. Était-il possible qu'elle vécût cela? On lisait ce genre de choses dans les romans, et voilà que maintenant, dans la vraie vie, un homme en redingote était à ses genoux et implorait. L'idée de l'épouser lui avait paru simplement stupide parce qu'elle l'avait trouvé ridicule. Mais mon Dieu, à cet instant, il n'était pas du tout ridicule. Dans sa voix, sur son visage, s'exprimait une angoisse si vraie, une prière si sincère et si désespérée. « Non, non, » répéta-t-elle, en se penchant vers lui très émue. « Je ne vous déteste pas, Herr Gründlich. Comment pouvez-vous dire cela? Mais maintenant, relevez-vous, s'il vous plaît. »« Vous ne voulez pas me tuer ?» demanda-t-il encore, et elle lui redit sur un ton consolateur presque maternel. «
Non, non.
Voilà qui est parlé, s'écria Herr Gründlich en se relevant. Mais tout de suite après, voyant le geste effrayé de Tony, il se remit à genoux et dit, inquiet et apaisant, « Bien, bien, ne dites plus rien, Tony. Je vous en prie. Assez sur ce sujet pour cette fois. Nous en reparlerons. Une autre fois. Une autre fois. Pour l'heure, au revoir. Au revoir. Je reviendrai. Au revoir. » Il s'était vite relevé, avait pris son grand chapeau gris sur la table, avait baisé sa main et était sorti en hâte par la porte vitrée. Tony le vit saisir sa canne dans la salle des colonnes et disparaître dans le vestibule. Toute confuse et épuisée, elle se tenait au milieu du salon des paysages, son mouchoir mouillé dans une de ses mains pendantes.